Tu as tout à fait raison de la préoccupation sur cet extraordinaire fidélité à soi-même. Mais ce qui me frappe aussi chez Césaire, c'est sa fidélité à son peuple martiniquais. C'est le fait que, parvenu au fait de la gloire, et sollicité par tous les pays africains, des pays qui ne sont même pas africains, et qui reconnaissent en lui un représentant de l'humanité, il est tenu à rester en Martinique. J'allais dire littéralement crucifié à une écharpe de députés, sans aucune espèce d'illusion à sa tête sur l'efficacité de son action parlementaire, mais luttant au quotidien, pied à pied, humblement, avec une ténacité absolument farouche et exemplaire, pour qu'un jour, au moins, sa parole ait en Martinique autant d'efficacité, autant d'impact qu'en Afrique, par exemple, chez les Nord-Américains ou au Bangladesh, partout dont on parle de la vallée, aujourd'hui, pour sa révélation.
Bon, je crois que la meilleure réponse que je puisse te porter est dans un texte de Césaire lui-même que pourrait lire Gerti tout à fait au début, quand, arrivant à la Martinique en 1939, il découvre le pays. Il parle de cette ville étalée dans la boue, cette ville qu'il prophétise belle, mais qui est étrangement inerte au moment où il la découvre en 1939. Une ville et une foule passées à côté de leur cri. Il y a là, je crois, Gerti, quelque chose que tu devrais nous rappeler, pour voir le chemin parcouru entre cette foule qui ne faisait pas foule, cette foule passée à côté de son cri, ce pays en perdition, ce pays totalement inerte, et puis ce qui est devenu la prise de conscience à travers, par exemple, la négritude, d'abord, et puis ce qui se passe à l'heure actuelle.